Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir le colonel André Montou, responsable de l'association patriotique et d'anciens combattants, la Sidi Ibrahim, créée à Tours en 1914. Cette association regroupe les anciens chasseurs préalpins motorisés, mécanisés. Elle commémore tous les ans les combats de Sidi Ibrahim le premier dimanche d'octobre. Situé en Algérie, il fut le théâtre d'un fait d'armes qui marqua les esprits. Il faut savoir que du 23 au 26 septembre 1845, 350 chasseurs dans la Kouba du Marabout résistèrent et se sacrifièrent. Colonel André Montou, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez cet épisode avant de mieux vous connaître.
Eh bien, en 1845, la France pacifiait l'Algérie à l'époque, qui était conquise depuis 1830. Et dans le secteur d'Oran, il y avait une effervescence due à la présence d'Abdelkader qui revenait du Maroc.
Oui.
Et le 23 septembre 1845, les troupes d'Abdelkader ont été vues au sud d'Oran, dans la région de Nemours. Mmh. Et un détachement de 350 chasseurs fut envoyé au-devant de cette troupe d'Abdelkader, forte de 5000 cavaliers, plus la Smala.
Alors quand on dit la Smala, ça veut dire...
C'est les familles et les enfants, toute la partie civile, entre guillemets, qui entourait Abdelkader.
Bien sûr.
Donc les 350 chasseurs furent détachés en avant de Nemours et se retrouvèrent sur une petite colline qui s'appelait Sidi Ibrahim, où se trouvait une kouba, c'est-à-dire un oratoire fermé par quatre murs, ce qui est important pour la suite. Et là, ils avaient une belle vue sur le futur champ de bataille. Le 24 matin, les cavaliers commencèrent à attaquer le marabout de Sidi Ibrahim et les chasseurs résistèrent du mieux qu'ils purent. Ils étaient à pied, les cavaliers attaquaient à cheval, bien sûr, et le combat dura toute la journée, forte chaleur, sans manger, sans boire, et les cavaliers ne purent pas passer. La nuit, ce fut calme, mais le surlendemain, la bataille recommença. Les chasseurs, bien sûr, furent tués petit à petit, si bien que le 26 septembre matin, il ne restait plus que 60 chasseurs dans le marabout.
Ah là là.
Sur les 350. Les autres étaient soit blessés, soit morts. Mais Abdelkader, lui, était surpris de cette résistance. Donc, il voulait à tout prix prendre cette position de manière à pouvoir avancer et continuer à attaquer les troupes françaises qui étaient plus loin. Les chasseurs, eux, voulurent se dégager et, sur le plan technique, réussir à rompre les rangs des troupes d'Abdelkader, se retournèrent vers Nemours, et là, ils franchirent une rivière, un oued, et là, sur les 60, 5 seulement survécurent.
Ah là là, 5 seulement.
Voilà. Et ces 5 survivants arrivèrent enfin à Nemours pour dire, ben voilà, tous les autres sont morts. Ce fait d'armes, c'est une défaite, bien sûr, mais c'est un fait d'armes. Ce fait d'armes est important parce qu'il montre l'abnégation, la discipline, l'esprit de sacrifice des chasseurs. Ce sacrifice des 350 chasseurs permit aux 800 hommes qui étaient derrière de se positionner sur le terrain. Et ça a permis aussi aux renforts d'arriver, et oui, ça a permis de bloquer Abdelkader. Et c'est en cela que c'est considéré comme un fait d'armes remarquable.
Alors je comprends maintenant que les chasseurs alpins, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Alors, chasseurs d'abord, chasseurs alpins c'est après. Les chasseurs ont été créés en 1830 par le duc d'Orléans.
Oui.
Ils contribuèrent à la conquête de l'Algérie parce que c'était une troupe d'infanterie légère pour l'époque, entre guillemets, et ils se développèrent. Et les chasseurs à pied devinrent alpins seulement en 1888 lorsqu'on installa des bataillons de chasseurs en montagne. Et on s'est aperçu qu'il fallait les équiper autrement que des troupes en plaine. Donc, ils eurent reçu une formation, un équipement, un habillement spécifique à partir de 1888.
Alors, peut-être c'est intéressant, justement, de nous dire en quoi consiste cet équipement.
Alors, les troupes alpines, déjà, la première chose que l'on remarque, c'est leur béret.
Voilà.
Les bérets des chasseurs alpins sont des grands bérets. Le béret dit savoyard, que les paysans de montagne utilisaient. Alors, La légende, ou du moins Léon dit, disent que les paysans, quand ils avaient froid, enlevaient le béret et mettaient les pieds dans leur béret pour se réchauffer.
Bon, oui.
Voilà. Ceci, c'est la petite histoire, ça n'a pas une grande importance. L'important, c'est que ce béret est un signe marquant des troupes alpines. Voilà. Toutes les troupes alpines sont équipées du grand béret, qu'elles soient chasseurs ou d'autres armes, hein, puisqu'il y a des transmetteurs, il y a des cavaliers, il y a des artilleurs alpins.
Et les
tout
souliers,
le monde a le grand béret.
Oui. Et les souliers?
Alors, les souliers, donc des souliers de montagne, avaient un fort cramponnage, de manière à pouvoir marcher sur les rochers ou dans la neige. Et puis, on a reçu un équipement d'hiver, notamment avec des vestes matelassées, des gants spécifiques. Oui. Bon, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais voilà.
Et j'ai eu une photo de chaussures. Elle devait s'user très vite.
Non, parce que le cuir très particulier était très solide, très très solide. Bien sûr, il fallait les entretenir. Et non, les chaussures étaient de très bonne qualité. Bon, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, elles étaient d'excellente qualité. Il faut le dire.
Alors moi, j'en reviens à votre carrière, parce que vous avez eu une carrière très très importante, puisque vous avez fait du parachutisme.
Oui,
alors racontez-nous cet épisode, bon. Parce que ce n'est pas évident d'être parachutiste. Alors, c'était un souhait à vous?
Voilà.
C'était...
J'ai toujours voulu être militaire, et quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait une préparation militaire élémentaire, puis préparation militaire parachutiste. C'est-à-dire que nous sommes civils et on fait des stages de 15 jours, 3 semaines dans une caserne encadrée par des militaires d'actifs pour la préparation militaire élémentaire d'une part et pour la préparation militaire parachutiste d'autre part.
Vous étiez dans quelle ville, hein?
Alors moi, je suis lyonnais de naissance et j'ai fait la préparation militaire parachutiste à Lyon. Et mes premiers sauts ont eu lieu sur le terrain de Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, près de Grenoble.
Oui.
Voilà. Et cela, c'était en 1959. À partir d'avions que l'on a vus récemment le 6 juin, les fameux Dakota de l'armée américaine qui ont participé au débarquement de 1944. Et on sautait de ces avions-là, nous étions 24 à bord de chaque avion. Et voilà, donc j'ai été breveté parachutiste pré-militaire en 1959. Puis j'ai fait plusieurs stages de les années suivantes.
Alors justement, je sais que vous avez fait un stage de missiles anti-char.
Alors ça, c'est plus tard. Quand j'étais en Allemagne, mon premier séjour en Allemagne comme lieutenant dans un régiment d'infanterie mécanisée. Donc ce régiment d'infanterie mécanisée faisait de la lutte anti-char contre l'ennemi potentiel. Et là, j'ai été formé comme chef de section anti-char avec des missiles ANTAC.
Ça veut dire quoi?
Alors,
moi, je suis très béotienne.
Engin tactique anti-char, hein, voilà.
Mm.
Et ce sont des missiles filo-guidés, c'est-à-dire guidés par fil, d'une portée de 2 km, qui sont tirés à terre et qui pouvaient détruire tous les blindages connus à l'époque. C'est des missiles dits à charge creuse. Je ne veux pas entrer trop dans la technique.
Si, mais c'est intéressant,
voilà.
Oui.
Et ce stage, je l'ai fait au camp de Mailly, et bien sûr, comme tout chef de section, j'ai tiré mon missile sur une carcasse de char, bien sûr, à 1850 mètres exactement, et j'ai réussi le tir.
Ça doit être très impressionnant.
C'est fascinant. Hein.
Quand vous dites fascinant.
On a l'impression de vraiment faire la guerre, là, parce que quand il y a l'impact, c'est vraiment une explosion et c'est saisissant.
Et vous avez quel âge quand vous faites ça?
J'avais 28 ans, 27-28 ans.
Voilà. Ah oui, donc votre cœur devait battre.
Non, on déformait, il ne faut pas exagérer non plus.
Donc ça, vous avez 28 ans.
À peu près 28 ans, oui, à peu près.
Dans et ces donc, années. Vous continuez votre carrière dans...
Alors après, je suis revenu à Barcelonnette. J'ai fait 2 bataillons, le 7e BCA comme sous-lieutenant-lieutenant, le 11e BCA comme lieutenant. Puis en Allemagne, comme je viens de vous le dire, où j'étais chef de section anti-char. Puis je suis revenu à Barcelonnette comme capitaine. Et là, j'ai fait mon temps de commandement de capitaine pour commander une compagnie de chasseurs alpins au 11e bataillon de chasseurs alpins à Barcelonnette, dans les Alpes du Sud.
Et voilà. Vous devenez commandant?
Alors après, non, le commandant, c'est plus tard. Oui. Je suis devenu commandant 6 ans après, à peu près. Et là, j'ai été muté en Allemagne dans les chasseurs mécanisés. ce qui est différent.
Alors, expliquez.
Alors, les chasseurs mécanisés, ce sont des chasseurs, toujours dans la tenue bleue des chasseurs, mais sur des engins blindés. Des engins blindés à chenilles à l'époque. Donc, le VTT, véhicule transport de troupes, et les chars AMX-13, d'autre part, pour la partie escadron. Voilà. Mais là, j'étais commandant et j'étais chef des services administratifs. Donc, j'avais ma carrière a changé d'orientation.
Complètement,
oui. A changé d'orientation. Là, j'ai quitté le côté purement opérationnel pour le côté gestion.
Et vous préfériez ou...
Ah bien, à partir d'un certain âge, on est obligé de basculer. Hein.
Et vous avez quel âge quand
Et là,
vous...
j'avais 30, presque 40 ans, 30, oui, 40, une quarantaine d'années à peu près.
Et là, vous êtes basé où alors?
Alors, à Villingen en Allemagne, donc en Forêt-Noire. Le Villingen est au-dessus de Fribourg en Brisgau.
Vous parliez allemand?
Pas du tout, pas j'ai du appris tout. Quelques mots sur place. Mais on vivait plutôt en vase clos en Allemagne.
Oui.
Ceci dit, en ville, on se débrouillait fort bien dans les restaurants, dans les magasins. Non. La vie est agréable.
Oui.
Était agréable, oui.
Alors je sais aussi que vous avez fait partie du 132e groupe cynophile de l'armée de terre. Alors ça, je crois
que c'est
extrêmement important. Et j'aimerais vraiment qu'on insiste dans ce domaine, parce que je crois que c'est assez mal connu.
Alors, le 132e groupe cynophile de l'armée de terre, c'était l'appellation de l'époque, est un organisme opérationnel qui est à la fois centre de formation des maîtres chiens de l'armée de terre et bataillon opérationnel qui pouvait partir en territoire de guerre, en opération. Donc, de partie entraînement, on forme des maîtres de chiens. À l'époque, c'était des appelés. C'est-à-dire que c'était des appelés volontaires qui venaient chez
nous. Ceux qui faisaient leur service militaire.
Ils faisaient leur service national. Ils étaient volontaires. Ils avaient une formation initiale de 5 semaines minimum. Il devenait maître de chien. Et
Il y avait, excusez-moi, des spécialistes qui pouvaient...
Il y a eu plusieurs spécialités. La base, c'est le maître de chien qui conduit son chien, qui garde un dépôt, qui garde des munitions, qui garde, etc.
Oui.
Chien de garde, avec son maître, et qui fait des rondes. Ensuite, il y a de la spécialité, le chien éclaireur, le chien pisteur, le chien détecteur d'explosifs.
Vous voyez, donc après, alors, vous aviez combien de chiens?
Alors, bien, Sweep, c'est le plus grand, à ma connaissance, c'est le plus grand... le plus grand chenil de France, puisqu'il y a 550 courettes. Donc en moyenne, on avait en gros 500 chiens. Il y a 3 chenils, un chenil de 100 courettes, le premier chenil initialement, ensuite le deuxième chenil beaucoup plus moderne de 400 courettes et un chenil de 50 courettes pour les chiens qui sont en quarantaine.
Eh oui.
Et qu'on vient d'acheter, qu'on met en quarantaine avant d'être mis à disposition.
Alors j'imagine qu'il y a tout un personnel vétérinaire,
ouais,
etc.
Oui. Alors, la situation déjà géographique, c'est sur le camp de Sweep.
Qui se trouve
en Champagne, au nord de Châlons-Champagne, à 25 km au nord de Châlons-Champagne. Et les effectifs tournent autour de 400 personnels, 500 chiens, 400 personnels, et on formait des maîtres de chiens pour l'armée de terre, pour la marine, puisque la marine n'a pas d'école spécifique, et on achète toujours des chiens pour la gendarmerie, pour la police nationale, pour la ville de Paris, il y a des conventions signées avec des organismes, pour la SNCF. Tous ces grands organismes ont des maîtres de chiens, et c'est l'armée de terre qui leur achète les chiens. Et on forme les maîtres de chiens pour toute l'armée de terre et la marine.
Ah oui, alors vous les achetez, quand vous dites on achète des chiens, mais comment ça se passe?
Alors on achète des chiens dans des petits élevages familiaux, on évite les gros élevages. Il faut que le chien soit sociabilisé. On achète les chiens à peu près à 18 mois, quand il est jeune adulte. Il est sociabilisé dans une famille, donc les familles élèvent 5-6 chiens, pas plus.
Mmh.
Et ces chiens ont vécu avec les enfants, avec les humains.
Oui.
Donc ils connaissent le monde humain, à tout grade, tous âges plutôt. Ensuite, on les sélectionne. Alors, sensibilité au bruit, notamment au coup de feu.
Oui.
Sensibilité au coup. Parce que en opération, ils peuvent être tapés. Donc, comment ils réagissent quand on les tape? Sensibilité, voir s'ils sont peureux, agressifs, naturellement agressifs ou peureux. Un chien a un caractère, comme tout être
bien
vivant.
Sûr, oui.
Donc, on les teste et on prend, bien sûr, ceux qui nous conviennent pour le métier qu'on veut leur faire faire. Quoi.
Oui. Donc, ça voulait dire toute une organisation de chenilles.
Oui.
Combien il pouvait y avoir de chenilles sur...
Alors, c'est, non, les maîtres, ouais. Les acheteurs. Alors, c'est des familles, je vous dis...
Oui, non, mais vous-même, quand vous avez ces... Quand vous avez acheté
ces chenilles... Une fois que... Bon, la plupart des chiens sont chez nous, mais il y a... Dans chaque région militaire, il y a des chenilles... Et puis dans certaines unités spécifiques, alors bien sûr tout cela a évolué avec le temps, là, cette année je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe. Mais en gros c'est le principe, il y a des chenilles dans chaque région militaire, et puis dans certaines unités il y a des chenilles spécifiques parce qu'il faut, il y a un gardiennage particulier à faire, voilà.
Oui, parce que moi j'ai reçu un commandant qui avait dû aller pour retrouver des gens qui étaient enfouis, et c'était des chiens qui faisaient le travail. Oui. Donc là, comment organise-t-on le fait de pouvoir apprendre aux chiens à retrouver des humains?
Alors, le retrouver des humains, c'est plutôt le rôle des chiens de gendarmerie.
Oui.
Ceci dit, on leur apprend aussi chez nous. Bon, on fait des exercices. Hein. Alors, le chien, on lui fait renifler un objet appartenant à la victime, à la personne perdue. Mmh. Hein, et sachant que les odeurs traînent dans la nature plusieurs heures, donc, généralement, on attend 2-3 heures avant d'envoyer le chien chercher la victime pour que les odeurs ressortent sur l'herbe, sur le goudron, faut que les odeurs remontent.
Mmh.
Hein, et le chien, après, les odeurs restent plusieurs heures. Alors, tout ça, c'est fonction du temps, de la météo, de l'humidité, etc. Bon. Et le chien, il suit sa piste et le maître de chien le suit. Et puis, il guide, jusqu'à ce qu'il trouve ou il ne trouve pas, bien sûr.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec le colonel André Montout. Nous avons expliqué un peu sa carrière et maintenant je sais qu'il a un rôle extrêmement important dans l'association. Alors tout d'abord, dites-nous en quoi consiste cette association, comment elle s'appelle, et ça c'est très important.
Alors je fais partie de l'association de la promotion cinquantenaire de Verdun. Notre promotion de l'école militaire interarmes a été formée à Couette-Quidan en 1965-1966.
Oui.
Nous appelons cinquantenaire de Verdun parce que nous avons choisi ce nom-là pour le 50e anniversaire de la bataille de Verdun, 1916-1966. Ce choix a été accepté par le commandement et officiellement on est devenu promotion cinquantenaire de Verdun au mois de mai 66 et nous avons défilé à Verdun en 1966 devant le général de Gaulle pour le 50e anniversaire de la bataille de Verdun.
Très bien. Et vous êtes combien dans votre association?
Alors, notre promotion comprend 200, nous étions 200, avec les étrangers.
Oui. Étrangers, vous voulez dire?
Des étrangers, c'est-à-dire essentiellement des Africains, dont l'Afrique était devenue indépendante en 1960. Et nous avons des camarades, des frères d'armes, qui étaient des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, des Dahoméens, etc. Voilà.
Oui.
Ils étaient une vingtaine.
Quand ils ont défilé.
Ah, ils étaient, faisaient partie intégrante de notre promotion. Ils font partie intégrante de notre promotion.
Ils viennent en France, vous les rencontrez?
Alors, on s'est perdu de vue, parce que la vie, ils ont été pris par leurs propres armées, ils sont restés chez eux après. Bon, ont peut-être fait des séjours en France en stage, mais personnellement, j'en ai revu aucun de mes camarades. Voilà.
Oui. Alors, votre promotion, j'entends les anciens militaires, vous êtes combien à vous réunir?
Alors, notre promotion, bien sûr, il y a l'âge qui joue, nous sommes beaucoup moins nombreux. Nous sommes environ un peu moins de 150, mais tout le monde ne participe pas vraiment à la vie de la promotion. Nous sommes une centaine.
Ah, quand même.
À vivre avec la promotion. Et sur cette centaine, il y en a la moitié qui est un peu la colonne vertébrale, qui est vraiment active. Les autres contribuent, cotisent et lisent les documents qu'on leur envoie, mais disons, restent un peu en retrait. Mais dans une cinquantaine, en gros 50, 60 des fois, où nous sommes, qui participent réellement aux activités de la promotion. Avec le temps, ces activités diminuent en nombre, bien sûr.
Oui. Alors, en quoi consiste votre activité?
Alors, l'activité,
en tant qu'association.
Voilà, l'activité principale, c'est l'Assemblée Générale. Autrefois, nous faisions une Assemblée Générale annuelle. Maintenant, on fait une Assemblée Générale tous les deux ans.
Oui.
Et cette année, nous faisons notre Assemblée Générale au mois de septembre, en Sologne, pendant deux jours.
Et pourquoi en Sologne?
On change de site chaque fois, de manière à favoriser un peu les déplacements, puis découvrir de nouvelles régions pour certains.
Oui, alors pouvez-vous peut-être nous raconter comment s'est passée la dernière rencontre?
Alors, la dernière s'est passée à Couette-Quidan pour le 50e anniversaire, pour notre jubilé. Notre jubilé,
oui, là, c'est
le 50e anniversaire de notre sortie de Couette-Quidan. Donc, ça a été décalé d'un an, mais je ne rentre pas dans les détails. Mmh. C'était en 2017. Et nous nous sommes retrouvés à Rennes. Nous étions 67,
oui.
Donc relativement nombreux. Et là, nous avons passé une journée un peu exceptionnelle à Couette-Quidan, dans notre ancienne école, avec les nouvelles promotions, celle qui avait 25 ans, qui est sortie 25 ans après nous, et celle qui est sortie 50 ans après nous, que l'on a baptisée, voilà.
Ah oui, donc ça devait être très émouvant.
C'est très émouvant, et puis ça resserre les liens, bien sûr, entre les membres.
Hein.
C'est,
oui.
c'est très fort, et c'est très marquant.
Et vous avez visité autour
Alors, bon, on a fait un séjour, on a profité, on a fait la visite du Mont-Saint-Michel traditionnel,
oui,
voilà.
Oui.
Ça permet aux gens de pouvoir se retrouver, de discuter, enfin voilà.
Et les familles viennent avec vous
Oui, bien sûr, les épouses, nos épouses participent, hein,
oui.
Celles qui veulent, voilà. Ceci dit, pour parler de la promotion, nous sommes une des rares promotions... Philippe, à côté de moi, le soulignera
oui.
aussi. Nous avons rédigé un ouvrage au début des années 2000, un ouvrage qui fait plus de 500 pages
oui.
et qui regroupe toutes les carrières des membres de la promotion, du moins ceux qui ont voulu participer. Et dans cet ouvrage, qui a été intitulé « Au fil des révolutions
oui. »,
pourquoi le fil des révolutions? Parce qu'entre 1966 et 2004, la sortie du livre, eh bien, il y a eu dans le monde entier plein de choses.
Bien sûr, voilà. Oui.
Et à travers ces événements mondiaux, eh bien, notre promotion a participé à son niveau, à son petit niveau, ben, pour certains d'entre nous, à des actions, des combats, des opérations dans différents lieux du monde.
Oui, alors je sais que votre promotion n'est pas la même que toutes les promotions.
Non.
Peut-être vous pourriez nous citer justement les grands faits de votre promotion. Ça, c'est quand même très
alors,
important.
Alors, les grands faits, je ne peux pas dire vraiment les grands faits. Oui, alors les promotions ne se ressemblent pas. Pas toute promotion, c'est comme un être humain,
bien
à son
sûr,
caractère, sa personnalité. Il y a des promotions qui sont plus ou moins unies, d'autres moins unis, pourquoi? C'est difficile à expliquer. La nôtre, nous sommes très unis.
Oui.
Nous faisons partie des promotions où l'union est vraiment marquée et marquante. Voilà. Les faits marquants dans notre promotion, bon, certains ont participé à des opérations, notamment au combat en Yougoslavie, dans les années 90, certains d'opérations en Afrique, notamment au Tchad, dans les années 75-80, Certains ont participé à des opérations au titre du renseignement dans des pays étrangers.
Alors, quand vous parlez de renseignement, expliquez-nous un petit peu en quoi ça peut consister.
Justement, ce sont des carrières qui sont assez discrètes.
Oui.
Dont on parle généralement peu parce
oui, alors
que.
Je me dirais bien qu'à Radio Grand Ciel, on en parle un petit peu.
Ce ne sont pas des carrières dont on parle dans les journaux.
Non.
Ce sont des officiers dits de renseignement qui œuvrent dans l'ombre, mais dont le travail est très important pour la connaissance de ce qui se passe à l'étranger et notamment dans des pays qui sont susceptibles de.
Je crois que le colonel Breton, justement, a participé.
Il y a certains de mes camarades qui ont participé à cela. Moi, personnellement, je ne peux pas en parler. C'est vraiment très spécifique.
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors maintenant, j'aimerais savoir, justement, quels sont vos buts prochains pour votre association.
Alors, notre promotion, nous approchons des 80 ans pour
la
plupart
d'entre
nous.
Oui, et donc, il va y avoir une grande fête,
donc,
j'imagine.
Donc, il y a le problème de l'état de santé. Donc, on fait des réunions, comme je vous l'ai dit, Assemblée Générale tous les deux ans maintenant. Ceci dit, au niveau régional, il y a des régions où il y a des chefs, entre guillemets, qui émergent, et plus dynamiques, qui organisent des réunions dans leur région. Et bien sûr, tout le monde peut y aller, mais généralement, ce sont les régionaux qui s'organisent. Alors, chez nous, il y a le Grand Ouest, il y a le Sud-Est, et puis, et après, bien, c'est variable, il y a des régions, voilà. Mais le Grand Ouest et le Sud-Est, tous les deux ans, organisent généralement des réunions locales.
Et vous en faites partie.
Alors moi, j'essaye de, en tant que secrétaire de promotion, j'essaye de participer à,
alors,
au moins.
La prochaine, parlez-nous de la prochaine.
La prochaine, à part l'Assemblée Générale 2019, en 2020, nous pensons faire une réunion dans les Alpes, justement, mais ça, c'est encore en filigrane, c'est pas déterminé. Une réunion dans les Alpes, tournée à partir d'Annecy, et Grenoble-Annecy, pour aller voir le plateau des Glières au lieu de la résistance. Oui. Voilà, ça durera 3 jours, pas plus. Hein,
Êtes logé par des amis ou...
Cela dépend. On cherche, soit on trouve
un
hôtel ou des gîtes. Enfin, c'est celui qui va organiser cela qui va déterminer.
Et vous assistez à l'organisation?
Ah ben, en tant que secrétaire, je participe, bien sûr. Déjà pour l'information de tout le monde.
Oui.
Et puis, moi-même étant ancien alpin, projet 2020 m'intéresse forcément.
Oui.
Voilà.
Alors, les épouses suivent.
Oui, oui. Alors là, c'est variable, là aussi. Il y a des épouses qui peuvent ou qui peuvent pas, ou qui veulent ou qui ne veulent pas, ça c'est... Mais, généralement, nos épouses suivent avec plaisir, oui. Alors, on a une activité, quand on est en Assemblée Générale, c'est les garçons qui se réunissent en Assemblée Générale, alors pour les épouses, il y a une visite spécifique pour elles. Il y a 2 ans, lorsque nous étions à Coëtquidan, elles sont allées visiter le château des Rohan à Pleuhermel, à Josselin, pardon. Et puis cette année, elles vont visiter le pôle de la porcelaine à Meung-sur-Yèvre, puisque là, dans le Berry, il y avait de la porcelaine faite à Vierzon, Meung-sur-Yèvre, enfin la région de Bourges, voilà.
Alors vous avez aussi un insigne, j'aimerais bien que vous le décriviez.
Alors chaque promotion d'officier a son insigne spécifique, créé pour elle, et qu'elle seule porte. Alors, notre insigne concernant la cinquantenaire de Verdun comprend la flamme du soldat inconnu, avec le socle et puis la flamme qui s'élève, comprend la croix de guerre 1914-1918 en haut, et ensuite le glaive, la pointe tournée vers le ciel, en tant que formation combattante.
Hein. Voilà.
Et puis, il y a le mot Verdun, qui est inscrit en toutes lettres, verticalement, sur un fond argenté. Voilà le descriptif rapide de notre insigne de promo.
Et chacun d'entre vous
l'a porté pendant le séjour à Coëtquidan, 1965-1966. Et puis, on l'a porté pour le jubilé, le 50e anniversaire de notre sortie de Coëtquidan. On avait le plaisir à le remettre sur le col de la veste, bien sûr.
Mais écoutez, bravo à vous parce que c'est un grand fait d'histoire que vous nous avez raconté aujourd'hui. Je vous en remercie infiniment, colonel André Montout. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiofranciel.fr. Merci, colonel André Montout.